Tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans Éphésiens 4. J'apprécie tellement les chants cette semaine, le cœur des gens qui ont voyagé, les messages qui sont arrivés, qui ont été prêchés. Et ce soir, on regarde un texte important. Et j'en suis arrivé à réaliser l'importance de ces passages. Peut-être à travers les mois, je réalise que Paul dit des choses qui sont tellement importantes. Et je vais essayer d'en parler. Prions pour cela. Seigneur, Nous avons besoin de toi chaque heure. Et tellement de nos vies peuvent être changées juste en te faisant confiance, en t'écoutant, en ôtant le vieil homme et en se revêtant du nouveau, en écoutant et en emmenant à la maison ce qu'on a entendu. Seigneur, aide-nous à emmener ces choses jusqu'au bout. Elles vont nous garder, elles vont nous donner la puissance, elles vont nous remplir dans le nom de Jésus. Amen. Si vous tournez premièrement dans Proverbe 3, Il est parlé de la bouche, du gravier dans la bouche, au verset 17. Proverbe 3, 17. C'est les voies d'un homme lui sont agréables. Le pain de la séduction est doux pour un homme, mais après, sa bouche est pleine de gravier. Et j'avais 300 dollars quand j'étais en Hongrie, et le change était... Et je devais le changer, donc je suis allée changer d'une manière illégale sur le marché, au marché noir, dans la rue, parce que c'était mieux échangé. Et ça s'est transformé en quelque chose de criminel. L'homme a été très déshonnête envers moi, déshonnête, et moi, ben, je l'étais aussi parce que c'était illégal. Et donc, ça ne s'est pas bien passé, mais j'ai rencontré cet homme. C'était très commun dans ces jours-là. C'était le temps du communisme, l'argent était en train de changer vraiment. C'était un temps très intéressant, particulier. Et donc, vous achetez de l'argent avec des foreigners hongrois. Et donc, j'avais des dollars à changer. Donc, je vais dans la rue, je le fais au marché noir. Je rencontre cet homme. Tu sais, on fait des signes. Tu sais, ces signes-là. Donc, on va au coin de la rue. Il y en a qui ont vécu dans ces pays qui savent de quoi je parle. Donc, sécurité, allez, prenez-les et faites-les sortir. Nettoyons cette place. Non. Donc, il commence à compter, je regarde, il fait, je prends l'argent, j'arrive à la maison, et de l'autre côté, et à l'extérieur, il y avait des billets hongrois, et à l'intérieur, des billets yougoslaves, qui est une monnaie très, très basse, très... Et après ça, je n'ai même pas parlé de ça à ma femme. Ah non, pardon, je lui en ai parlé, mais elle a eu compassion de moi. Et elle a juste eu un moment de silence. Bon. Quand on triche avec quelqu'un, ça peut être très doux au début. Quand on vole, ça paraît doux. C'est le pain de la séduction, mais après, c'est comme la bouche est remplie de gravier, au verset 17. Et après, donc, dans ta bouche, tu peux sentir une certaine douceur, puis après, ça devient mauvais. C'est plus doux du tout. C'est comme du gravier dans la bouche. Et je veux dire qu'il y a des façons de penser que certaines personnes ont dans leur vie qui sont du péché. Et une autre chose à laquelle je pensais, ce sont la façon de penser sexuelle. Quand des gens, avant d'être sauvés, étaient très actifs sexuellement, et après ça, ça revient à leur pensée et ils rejouent ces choses dans leur tête. Une autre chose, c'est la revanche. Quand quelqu'un m'a fait du mal, je leur rends ce qu'ils m'ont fait. Et on peut dire, pourquoi parle-t-on de ces choses? Parce que Paul en parle dans Éphésiens 4. Et franchement, je pense qu'il y a des façons de penser dans la vie des gens, dans le cœur des gens, et des chrétiens les laissent aller et se disent, c'est normal que ça soit comme ça, que je pense comme ça. Et c'est entretenu. Je pense que la pornographie est un très bon exemple. Et les gens retournent à cela dans leur pensée, dans leur tête, et ça ne peut pas s'arrêter à cause d'une façon de penser dans le cœur. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont été dans cette église, qui sont partis aussi, et alors qu'ils sont partis, ils développent des façons de penser contre l'église. Et pourtant, ils vivent aussi dans ces façons de penser, d'être moqueur, d'être quelqu'un qui hait les autres ou infidèle, et les gens s'en vont et personne n'est parfait. Et on ne pense pas à ça, mais ce n'est pas le point ce soir. Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Et ces choses doivent être rencontrées. Et ça peut prendre des mois, voire des années, mais il y a quelque chose dont je suis conscient. Pour le monde, c'est normal, mais avec Dieu, ce n'est pas normal. Dans le monde, c'est bien de penser comme ça, ça ne dérange pas. À la télévision, ils parlent comme ça. Dans les universités aussi, il y a tellement de façons de s'exprimer. Vous savez, on est des gens, hein, on est comme tout le monde. Si on a de la jalousie, ben voilà, on est. Qui n'a pas de la jalousie? On est des gens, on est des hommes. Et puis je peux vivre dans la fantaisie de ma pensée, dans mon cœur, et ça me paraît normal. Et pourtant, je suis un chrétien. Mais ta vie, comment tu vas changer? Et voilà le texte dans Éphésiens 4. Et ce soir, je vais encore provoquer votre pensée, vous aider à réfléchir, amener quelque chose de puissant. Et ça commence au verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça prend combien de temps pour enlever le vieil homme, pour se dépouiller? Est-ce que ça prend un moment? Mais je dois développer une façon de penser qui va contredire ce qui était là avant. Je dois développer le pardon pour contredire la haine. Et beaucoup de gens qui doivent pardonner ont été traumatisés. Pendant, il y a eu un homme, un juif, sa mère m'en a parlé, petit garçon, dans chaque ville où il allait, il regardait s'il pouvait voir son nom, parce que toute sa famille avait été tuée pendant l'Holocauste. Il n'a jamais pu retrouver un membre de famille. Si j'enlève, je me dépouille du vieil homme et si j'ai de l'amertume, j'ai un manque de pardon, je dois m'en dépouiller, je dois. Sinon, ça va revenir comme l'abus sexuel, le fait d'avoir été violé, le fait d'avoir été volé, le fait d'avoir vécu un accident de route. À l'église aussi, l'église m'a blessé. Mon ami m'a blessé. J'ai été mariée plusieurs fois et je suis désappointée, je suis découragée. J'ai été blessée par beaucoup de choses dans ma vie. Oui, ces choses sont réelles. On ne nie pas cela. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Dépouillez-vous du vieil homme. Par rapport à la vie passée, le vieil homme qui s'est corrompu, la corruption qui mange comme un ver qui mange mon âme. Nous avons fait plusieurs messages sur Sodome et Gomorre pendant la conférence. Et le point essentiel, c'était la convoitise de ces gens à Sodome et Gomorre qui poussaient la porte, qui étaient vraiment des gens remplis de convoitise. Ils étaient vraiment très forts dans leur convoitise. Et même Lot, qui offre ses deux filles en échange, et ça c'est un point terrible, je sais que c'est grave ce qu'il a fait, mais malgré cela, ils ne veulent pas. Donc, est-ce qu'on peut estimer le mal de notre convoitise et dire « J'ai vraiment besoin d'aide de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu. » Regardez au verset 23. « Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Revêtir l'homme nouveau. Et maintenant, vous avez la justice et la sainteté. Est-ce que vous comprenez combien ces mots doivent faire partie de votre façon de penser? La justice, la sainteté. Vous avez faim, vous en avez envie. La sainteté. Ces mots-là ne sont pas dans le vieil homme. Il cherche, il cherche la justice, il est une victime, il n'a pas trouvé le fait d'avoir été justifié ou d'avoir la sainteté. Mais vous l'avez trouvé en étant rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi renoncer au mensonge, verset 25. Et dans ces versets, là, nous avons, c'est quelque chose que nous mettons de côté, nous renonçons au mensonge et nous parlons selon la vérité à notre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Comment ça se passe? Le Saint-Esprit vient vers nous avec la vérité et je ne mens pas. Au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne nourrissez pas votre colère. Quand le soleil se couche, qu'il ne se couche pas sur ta colère. Ne sois pas en colère pour que ta colère devienne la chair. J'ai vu ça l'année dernière à cause de la politique, à cause de tout ce dont on est, ce qu'on a vécu, des décisions que le gouvernement a prises. Comment on pouvait devenir en colère? L'avortement, promouvoir le mal, tellement de choses qui nous provoquent, qui provoquent notre colère. Mais je ne dois pas aller me coucher avec la colère. Parce que cette colère, cette colère-là est juste, elle est de Dieu, puisque, et si c'est de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, donc je n'internalise pas. Sinon, je vais rester une personne en colère constamment. Non, je suis spirituel, je suis dans la paix. Je suis tranquille. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Mais je peux vivre dans la paix de Dieu et comprendre ce qui ne va pas et comprendre ce qui est mal. Au verset 26, il est dit, soyez en colère, mais ne péchez pas. Votre colère, la colère de l'homme. Là, il y a deux mots. En anglais, il y a deux mots. La colère et la colère, c'est une colère qui se voit extérieurement. Par exemple, quand le père se met en colère au milieu d'une pièce dans sa maison et qu'il a une explosion de colère. Pourquoi tu n'as pas fait ce que j'ai fait? Il se met en colère vraiment et ça se voit extérieurement. Mais ça, c'est émotionnel et ça ne vient pas de Dieu. La colère, les explosions de colère ne viennent pas de Dieu, n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Mais si tu es un homme, et j'ai eu de ces explosions de colère, et un jour, je me rappelle, avec un de mes enfants, Je l'ai pris, je l'ai envoyé sur le canapé. J'avais tort et j'étais en colère. J'ai eu quelque chose qui est venu de moi. Et ce soir, je vous confesse mes péchés. Je n'aime pas un homme en colère. Un homme en colère, non. Non, on ne peut pas être ça. On ne peut pas être un homme en colère. On ne peut pas vivre comme cela. Il faut qu'on y fasse face. On a besoin de l'enlever, de s'en dépouiller. Et on dirait que c'est instantané, non. Mais c'est un travail. On doit réaliser, le Saint-Esprit doit nous faire réaliser qu'on est fou de se mettre en colère. Même celui qui calomnie et celui qui ne peut pas contrôler sa colère, il doit réaliser que ça n'aide en rien les situations. Ça n'aide personne. Il y a des gens, leurs enfants sont en colère, ont peur de lui, vous créez de la distance entre vous et les gens. ce n'est pas la solution. Ça, c'est les voies du vieil homme. Et vous n'êtes pas en contrôle. Donnez ça à Dieu. Vous n'allez pas pouvoir aider vos enfants si vous vous mettez en colère contre eux. Et un homme a été dans une session de conseil aux parents. Il a dit, tu es vraiment un parent. Tu es un parent horrible. Et l'homme a été offensé, vraiment. Mais c'était bien. C'était bien d'avoir fait ça. Et j'aimerais que vous pensiez comment nous pouvons vivre dans ces vieilles façons de penser par rapport à l'activité sexuelle, par exemple. Vous devez oublier ça. Vous ne devez plus vous en souvenir. Vous prenez contrôle là-dessus. C'était le péché. Dieu s'en souvient plus et vous ne vous en souvenez plus non plus. C'est terminé. Ça ne doit plus faire partie de votre vie. Il y a beaucoup d'exemples. Ces façons de penser. Et l'apôtre Paul en parle ici dans cette portion. Vous vous dépouillez et vous revêtez. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui viennent à Jésus et qui continuent dans leur vie. Et Paul en parle de la vanité de la pensée dans Éphésiens 4, 17. C'est une pensée qui ne va nulle part. Ça ne va pas dans la joie, dans la sainteté, mais le résultat, c'est la vanité. Un autre schéma de pensée, c'est le regret. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui ont dit combien ils regrettent certaines choses. Je comprends. Je me suis mariée avec la mauvaise personne. Et maintenant, je suis en contact avec une autre personne. Et maintenant, c'est terrible tout ce qui se passe dans la pensée de cette personne. C'est comme un spectacle de la télévision. Cette chose-là ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Si je suis mariée avec cette personne, et cette personne est celle que Dieu veut utiliser pour m'enseigner, pour recevoir ses instructions et le connaître mieux. Et quand je commence à regretter, c'est une fin. Quand j'arrive au bout de moi-même, c'est fini. Ça ne va nulle part. Ça pourrait être mis dans cette liste. Au verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Avant, quelqu'un avait l'habitude de voler, et maintenant il apprend à servir, à donner, et c'est le nouvel homme. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a beaucoup d'expressions en parlant, si je parle de ma nature pécheresse, si je parle comment des gens m'ont blessé ou comment des gens n'ont pas été gentils avec moi, comment je peux être pleine de regrets, avoir une façon de parler corrompue et je peux leur faire du mal avec mes mots et je les blesse avec mes mots, je les attaque. je voudrais qu'ils souffrent. Je veux leur dire ce que je pense vraiment. Je veux leur dire ce qui arrive vraiment. Et ça, c'est le vieil homme avec un vieux schéma de pensée et il a des mots empoisonnés. Et c'est quelque chose que je fais volontairement. Je le fais avec de la sagesse même. Je mets certaines paroles qui vont blesser. Je mets des flèches dans mes paroles pour faire du mal. Ça, c'est vraiment une façon corrompue de parler. Mon vieil homme. Il y a beaucoup de cela encore dans nos vies. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi parle-t-il comme ça? Et on se demande pourquoi mon ami dit ça? Pourquoi il a dit ça derrière mon dos? Pourquoi il parle comme ça? Et au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Il y a des gens qui sont très bons à ça. Quand ils vous rencontrent, les cinq premières minutes, c'est « Vous êtes incroyable, tu es incroyable, je suis étonné par ta vie, ils ont des... » Puis tout à coup, il t'envoie une parole en pleine tête, une parole méchante. Wow, tu savais vraiment comment attirer mon attention. Tu savais comment me donner du miel au début, puis après m'envoyer une balle dans la tête. Tu as laissé la balle, la flèche arriver sur moi. Et ça arrive au travail, ça arrive avec un ami, ça arrive dans la vie, ça arrive dans l'église, ça peut arriver dans la famille, ça peut arriver partout. Et l'apôtre Paul dit, ne faites pas cela. Dépouillez-vous du vieil homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous vous revêtez du nouvel homme et vous vous revêtez en même temps d'un nouvel esprit. Vous apprenez comment parler d'une autre perspective. Comment vous parlez? Comment vous pouvez aimer quelqu'un, une jeune, votre enfant de 14 ans, vous arrivez à l'aimer. Vous apprenez comment aimer. Entre parenthèses, quand les parents deviennent en colère contre l'Église, c'est une chose terrible de passer leur colère à leurs enfants en même temps. Je l'ai vu arriver cela plein de fois. Nous avons eu des gens ici, des jeunes de 14, 15, 16 ans, il y a quelques années en arrière, et leurs parents avaient des problèmes, et ils ont fait vraiment un travail incroyable. Dans Deutéronome 27, les Juifs murmuraient dans leur tente, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé dans leur maison, dans leur tente. Il y avait des complaintes, il y avait des murmures contre eux, et ils ont passé ça à leurs enfants, alors que leurs enfants auraient pu devenir des missionnaires, des dirigeants. Ils ont reçu ces choses, et leurs enfants ont reçu ces choses dans leurs pensées, et ça les a empoisonnés. Et nous aimons la communion, nous aimons la justice, nous aimons la vérité, nous aimons être édifiés et avoir la foi et parler et aimer les gens pour qu'ils viennent à Jésus. Et Jésus dit que nous devons vivre ainsi. Que ça puisse communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ne dites pas aux gens ce qu'ils mériteraient. Donnez-leur la grâce. Donnez-leur la grâce. Vous avez été pardonné, pardonnez-leur. Vous avez été pardonné par Dieu, pardonnez aux autres. Pourquoi pas leur pardonner beaucoup, puisque vous avez été pardonné beaucoup par Dieu. Au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Attrister, ça veut dire rendre triste. Et vous savez comment on peut devenir très sensible en tant que personne qui avons l'Esprit de Dieu. On peut sentir quand nous faisons du mal au Saint-Esprit ou nous attristons ou quand quelqu'un attriste le Saint-Esprit. On peut sentir, oh, je deviens sensible. On le développe à l'intérieur de nous. Nous devenons sensibles à nos motivations. Nous devenons sensibles à nos buts et pourquoi nous faisons les choses. On peut être attristé parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Parfois, après avoir prêché, je peux aller à la maison et ce soir, quand je vais m'endormir, je repasse les choses dans ma tête et je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça. Et je deviens sensible à ce que le Saint-Esprit me montre. Mais je pense qu'il y a des choses, nous nous corrigeons nous-mêmes, comme David se corrigeait lui-même quand il a coupé le bord du vêtement de Saül. Et il est dit que son cœur s'est senti repris. C'est comme il s'est dit, j'aurais pas dû faire ça. Je n'avais pas le droit de le faire. J'avais pas le droit de faire ça à mon roi. Il était loin de Dieu. Et je veux le respecter. Je veux pas dire quelque chose qui est mauvais contre mon frère. Soyez prêts quand vous allez à la maison de Dieu d'avoir la crainte de Dieu parce que vous êtes sur terre et Dieu est au ciel. Ce n'est pas notre place de juger les hommes. Dieu va les juger. Qui suis-je pour juger le serviteur de mon frère? Mais Dieu va les juger. Dieu va s'en occuper. Ce n'est peut-être pas notre place de le faire. Au verset 31, que toute amertume, ça c'est le premier mot. Éphésiens 4, 31, le premier mot, toute amertume. Nous pensons que puisque nous avons de la revanche, alors que je cherche ma revanche, je pense que j'ai peur de laisser aller les sentiments. Je n'ai pas compris. Mais la clé, c'est c'est quand j'ai été. Ah, je ne comprends pas. Le ressentiment est sous la surface et de pouvoir me pardonner moi-même. Excusez-moi, je n'ai pas compris sa lecture. Mais quand l'amertume est attachée à moi, je deviens blessé. Je ne peux pas dire c'est pas grave, non, c'est là. Mais je dois revêtir le nouvel homme et je me plonge dans la miséricorde et dans le pardon. Et je commence à pardonner. Et puis, après, je vais tout oublier. Je me lave dans la miséricorde, dans l'esprit, par la foi. Je me lave dans la vérité. Je me lave dans la façon de penser de Dieu. Et l'autre pensée, c'est ma pensée. J'apprends. Regardez au verset 31, l'animosité, c'est le deuxième mot. Animosité, les explosions de colère. Un père, comme je disais, un père qui est en colère contre ses enfants, contre son fils, ou des explosions de rage. Des fois, ça arrive. Mais ça ne doit pas être le cas. Faites face à ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne faites pas cela. Comment vous allez l'arrêter? Je ne sais pas, mais arrêtez. En tout cas, ne le faites plus. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas arriver. Toute colère, troisième mot. Et des clameurs. Crier. Dans la maison, il y a des cris. Il y a la colère. Il y a l'amertume dans certaines maisons. Et dans les maisons des chrétiens? Non, non. Je pense que ce texte est vraiment incroyable. Toute espèce de méchanceté, toute calomnie. C'est un mauvais esprit. C'est vraiment de la méchanceté. Et là, au verset 32, soyez bons. Il y a trois mots. Soyez bons les uns envers les autres. Et compatissants. Et vous pardonnant les uns les autres. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imaginez si en tant que chrétien, on avait cette gentillesse tout le temps et cette sagesse. Et cet homme pourrait dire à son fils de 14 ans, « Je veux parler avec toi. » Comme un grand-père pourrait approcher son petit-fils et puis donner de l'espoir. Et puis, oui, donner de l'espoir à l'enfant. Tu es un bon jeune homme. Je crois en toi. Je suis un peu dur avec toi, je suis ferme, mais je vais t'instruire. Mais je ne vais pas me mettre dans des colères contre toi, non, ça ne vient pas de Dieu. Dans ta vie privée, comment tu penses par rapport aux gens? Nous sommes tous précieux, nous sommes les troupeaux de son pâturage, chacun de nous, nous avons des dons, chacun de nous, nous avons un futur, nous sommes faits à son image, nous sommes saints. Et nous avons célébré ça toute la semaine et nous avons eu des temps incroyables ensemble. Parce que ça, c'est le témoignage. Dans le monde, vous savez comment dans le monde, les gens ont des temps difficiles pour être ensemble. Parce qu'à moins de boire, ils ne s'en sortent pas. Et là, maintenant, ils disent des choses terribles, ils se parlent, ils parlent par rapport à leur égoïsme. Avant que Jésus ne parte, il a dit « Aimez-vous les uns les autres. Par cela, ils sauront que vous êtes mes disciples et que le Père m'a envoyé. Parce que vous vous aimez les uns les autres. » Non, pas en prétendant le faire, pas artificiellement, mais quand on va se coucher et qu'on a des choses et quand on a des amis, des frères, on prie pour eux, pas artificiellement, devant la caméra ou parce que c'est la bonne chose à dire. Non, mais dans notre cœur. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il fait en nous. Et nous apprenons cela. Et nous grandissons dans ces choses. Et nous, des fois, nous avons des moments de faiblesse, oui. Mais je vais y faire face. On n'est pas parfait, mais on va faire attention à ça. On va se revêtir de nouvel homme. Et on va vivre comme cela. Et nous marchons dans l'amour. Et nous devenons, au chapitre 5, imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, nous marchons dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous.